Voilà, donc ouvrons la parole de notre Dieu dans l'épître de Paul aux Galates. Alors notre frère nous a lu tout à l'heure le psaume 73 où Asaph faisait part de sa perplexité quand il voyait la situation des personnes autour de lui. Et mais à la fin, il dit, mais qui d'autre ai-je que toi? Qui d'autre ai-je que toi? Il a reconnu que finalement, son bien, c'était l'Éternel. Et vous savez que il disait même que c'est même stupide de penser que, hormis Dieu, on peut trouver sa joie en d'autres choses que Dieu. Et le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a donné plusieurs paraboles. Et parmi ces paraboles, il disait que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est semblable à un marchand qui cherchait de belles perles. Et lorsque ce marchand a trouvé une perle de grand prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et je peux dire que le chrétien est comme ce marchand. Lorsqu'il a trouvé l'évangile de la grâce, il trouve tout ce que son cœur a besoin. Il trouve ce dont son cœur a besoin, qu'est la paix avec Dieu. Et lorsqu'il trouve cette perle de grand prix, il est prêt à faire table rase de tout. Et pour lui, c'est ce qui est le plus important. Plus rien n'a de valeur à ses yeux. Et même, il est prêt à supporter les souffrances à cause de l'Évangile. Mais malheureusement, pour certains chrétiens, cette perle de grand prix qu'est l'Évangile qu'il a trouvé, le salut en Dieu qu'il confesse, cette perle de grand prix n'a plus la même valeur. Et il préfère l'enterrer comme ce serviteur à qui l'on avait confié ce talent et qui est allé l'enterrer pour vivre sa vie. Et il a négligé ce talent que le maître lui a donné pour vivre la vie qu'il voulait. Puis lorsque le maître est revenu, il allait déterrer ce talent pour dire, tiens, voilà ton talent. Le maître l'a repris sévèrement et a dit que par ton attitude, tu montres qu'au fait que tu n'appartiens pas au royaume. Donc va dans ce lieu de tourment et c'est là ta place. Vous savez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il a rencontré la femme samaritaine près de ce puits, le puits de Jacob, cette femme qui venait régulièrement puiser de l'eau, donc faisait tout cet effort pour venir puiser cette eau, ramener chez elle, revenir, etc. Le Seigneur lui a dit, mais moi je suis celui qui peut te donner cette eau. Si tu crois en moi, tu n'auras plus besoin de venir puiser de l'eau parce que en moi, je suis cette source d'eau vive, il dit. Et donc, cette femme dit à Jésus, mais donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi cette eau. Et donc, le Seigneur va lui indiquer que pour boire cette eau, en fait, il fallait qu'elle mette sa vie en règle. Elle qui a connu plusieurs hommes et qui vivait avec une personne qui n'était pas son mari. Et après, le Seigneur se révèle à elle, lui disant que oui, c'est lui, le Messie qui était attendu. Et cette femme va aller confesser dans son village, « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. » Mais, et donc cette femme va comprendre que c'est en Jésus-Christ qu'elle peut puiser cette eau, cette source d'eau, c'est Jésus-Christ, et que si elle se confie en lui, elle n'aura plus jamais soif. Et lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous reconnaissons que c'est lui la source d'eau vive, c'est lui dont on a besoin. Mais là aussi, malheureusement, certains chrétiens préfèrent retourner au puits pour puiser avec leur propre force cette eau, au lieu de revenir à celui qui est la source de cette eau vive. C'est aussi cela que Dieu a reproché au peuple d'Israël en Jérémie chapitre 2 verset 13, quand il dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Dieu leur dit, mais comme Asaph, vous êtes stupides. En m'abandonnant pour aller vous creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Moi qui suis la source d'eau vive. Et c'est aussi là qu'était donc l'erreur des chrétiens de Galate. Ces chrétiens voulaient quitter le salut par grâce, le salut par la foi seule, pour retourner à un salut par les œuvres. Et c'est ce qui pousse l'apôtre Paul à leur dire, donc dans ce chapitre 3, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Ô Galates dépourvu de sens. Faut-il dire, c'est stupide de quitter la voie qui vous a amené au salut pour revenir en arrière et chercher à vivre votre vie chrétienne par vos propres forces, ou même en disant aux gens que voilà, pour être sauvé, vous devez vous faire circoncire selon les rites de Moïse. Et dans ces 14 premiers versets que nous avons vus la fois dernière, l'apôtre Paul démontre que Dieu sauve le pécheur par la foi en Jésus-Christ seul, sans les œuvres. Il rappelle que l'homme est sauvé donc par la foi seule, que c'est après avoir entendu l'évangile que Paul a annoncé par la puissance du Saint-Esprit. Ces personnes se sont tournées vers Dieu, ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Lorsqu'ils ont entendu l'évangile, donc la prédication de la parole, ils ont placé leur foi en Jésus-Christ et ont reçu le Saint-Esprit que Dieu avait promis. Et même après avoir placé leur confiance en Jésus-Christ, ils ont souffert à cause de leur foi, mais ont vu aussi des miracles que Dieu a opéré pour eux et en eux. Oui, l'homme est sauvé par la foi seule. Donc, c'est ce qu'il explique dans ces 9 premiers versets. Il rappelle aussi que l'homme est sauvé donc sans les œuvres de la loi, puisque la loi, il dit, exige la perfection et une obéissance totale, que tous, il dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et seul Jésus est celui qui a pu accomplir parfaitement la loi parce qu'il était sans péché. Il explique aussi que la loi apporte la malédiction et une condamnation, puisque il suffit de pécher contre un seul commandement, on devient coupable de tous. Donc il est impossible pour l'homme de pratiquer la loi et de chercher à vivre selon la loi. Et il termine en disant que la loi ne permet pas d'être déclaré juste par Dieu, puisque même dans l'Ancien Testament, il est souligné que le juste vivra par la foi. Et dans les versets 13 à 14, il rappelle qu'elle a été l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus nous a rachetés donc de la malédiction de la loi, et que nous recevons, il est dit, la bénédiction d'Abraham, voire le salut par la foi, et que nous recevons l'esprit que Dieu avait promis au moment de notre conversion. Alors j'aimerais que nous lisions les versets 15 à 29 de ce chapitre 3. « Puisque si l'on n'est pas sauvé en cherchant à pratiquer la loi, puisqu'il est impossible de le faire, on peut donc se poser des questions suivantes. À quoi sert la loi, finalement? Pourquoi Dieu l'a-t-il donnée? Et quelle est la position du croyant vis-à-vis donc de la loi? Alors, le texte nous dit, au verset 15, « Frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà. Alors, les réponses de l'apôtre Paul à ces questions, à quoi donc sert la loi, pourquoi Dieu l'a-t-il donnée, quelle est la position des croyants, là, nous sont données là dans ce passage, et ces réponses doivent nous encourager à jouir pleinement de notre vie nouvelle en Jésus-Christ, sans chercher à pratiquer les œuvres de la loi, parce que la promesse de Dieu pour ceux qui ont la foi, cette promesse demeure. Et la foi est importante, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que la loi aussi a été donnée pour amener l'homme à la foi et que la foi en Jésus-Christ donne une nouvelle position. Donc ces passages, c'est vrai que c'est de la doctrine, mais ça là, parce que la vie chrétienne est fondée, basée sur cela. Et il est important de comprendre ces vérités pour vivre une vie chrétienne épanouie. Si nous ne comprenons pas ces vérités, nous pourrons avoir tendance à faire comme notre frère nous disait, à voir que l'herbe est plus verte ailleurs. Et nous passons à côté des trésors, de ce trésor que nous avons trouvé, et nous ne voyons pas toute la splendeur de ce trésor, de cette perle de grand prix. Et là, l'apôtre Paul est en train de dire aux Galates, mais vous ne vous rendez pas compte que le jour où vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, de ce trésor que vous avez trouvé, que le Seigneur vous a fait grâce, et là maintenant, vous négligez ce trésor. Alors il parle de la promesse de Dieu, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et que cette promesse s'applique pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Vous savez que dans la Genèse, Dieu a fait donc à Abraham la promesse que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Il lui fit donc la promesse de lui donner une postérité qui sortira donc de ses entrailles, mais il lui dit aussi, il fait la promesse de lui donner un pays. Alors, on trouve cela dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Je vous fais la lecture. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans Genèse chapitre 15, versets 5 à 6, il dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, il dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et dans Genèse chapitre 13, verset 15, lorsque Lot a décidé d'aller vers Sodome et Gomorre, certainement Abraham était déçu et triste à cause de cette séparation. Alors Dieu le prend et lui dit, dans Genèse 13, verset 15, « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Donc Dieu, c'est lui qui fait des promesses à Abraham. Et donc l'apôtre Paul va reprendre tout cela pour expliquer que ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ qui sont les héritiers de la promesse de Dieu. Et bien que la loi, il dit, a été donnée 430 ans plus tard, cette loi, plus tard après l'entrée de Jacob en Égypte, cette loi n'annule pas la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Cette loi ne la modifie pas. C'est ce qu'il explique dans ses versets 15 à 18. La loi de Moïse n'enlève rien à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. C'est Dieu lui-même qui l'a confirmée en la rappelant à ses descendants. Donc la promesse a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ, il reste valable pour toujours, parce qu'il dit, il parle de sa descendance, et sa descendance c'est Christ. Donc, l'apôtre Paul explique que les promesses que Dieu t'a fait à Abraham, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes au bénéfice aussi des promesses de Dieu, les promesses que Dieu a faites à Abraham. Il explique aussi que la loi, elle est temporaire ou passagère, qu'elle a été donnée par l'intermédiaire des anges et par Moïse, alors que Dieu lui-même, c'est lui qui a parlé à Abraham et qui lui a fait ses promesses. Et il dit aussi que la loi ne procure pas la vie, car il est impossible de la mettre entièrement en pratique. Et c'est ce qui est dit au verset 21. On peut lire ce passage de Romains chapitre 4, où l'apôtre Paul reparle de la justification par la foi, il donne l'exemple d'Abraham là. Alors, on va lire à partir du verset 13, Romains chapitre 4, à partir du verset 13. Il dit, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père de grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on peut s'arrêter là. Donc là, l'apôtre Paul reprend cela pour rappeler que ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, ils sont au bénéfice des promesses de Dieu et c'est eux les descendants d'Abraham. Ça, c'est la première chose. Donc, même le chrétien dit, mais le monde est à vous, tout est à vous, nous chrétiens. Et donc, il est important, frères et sœurs, que nous ne négligeons pas cette vérité que nous sommes les héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, il est dit, et il le précise que c'est nous les héritiers de la promesse. Donc lorsqu'on donne sa foi, lorsqu'on met sa foi en Jésus-Christ, lorsqu'on se donne à Dieu, on devient enfant de Dieu et on devient héritier de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Alors la question, pourquoi la loi, et dans les versets 19 à 25, l'apôtre Paul rappelle que la loi a été donnée pour, en fait, montrer à l'homme qu'il est pécheur. Montrer à l'homme que, par lui-même, il ne peut pas plaire à Dieu. Parfois, on peut entendre que des personnes qui entendent l'évangile, mais qui savent que leur vie n'a pas été bien ou estiment que ils ont fait trop de mauvaises choses et ils se sentent indignes de se tourner vers le Seigneur et qui vont commencer à dire voilà je vais chercher, je vais faire mieux et puis lorsque je serai prêt je vais donner ma vie à Jésus. Mais ça c'est impossible. Quels que soient vos efforts pour devenir meilleur entre guillemets, alors là ça sera courir en vain, puisque il n'y a pas le moindre effort que vous pouvez faire qui pourrait satisfaire l'exigence de Dieu. Et Jésus-Christ, il est venu, il a donné sa vie, c'est parce que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Alors la loi, vous savez, c'est l'ensemble des règles que Dieu a données au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Il n'y a pas que les 10 commandements, mais c'est-à-dire il y a plus de 600 commandements dans le Pentateuque qu'il faut observer. L'apôtre Paul explique que la loi donc n'est pas un moyen de salut, puisqu'elle ne justifie pas l'homme, mais au fait elle sert à révéler aux hommes leurs péchés pour les conduire à Dieu, pour qu'ils obtiennent le salut de Dieu par grâce. Discuter une fois avec un jeune et puis qui me donnait son témoignage et puis me disait qu'au départ il savait pas comment lire la Bible. Et donc il a dit comme il savait pas, il a commencé par le début. Donc il lisait la Genèse. Il voyait que ces hommes du temps de Noé, après il parle d'Abraham, il parle de Jacob, d'Isaac, etc. Et que tous ces gens-là, en fait, ils ont fait des erreurs, ils ont Abraham a menti, Abraham c'était pas un saint, hein, voilà. Et puis il voit que Dieu le fait des promesses, Dieu pardonne, Jacob pareil. Après il lit Exode, Lévitique, etc. Et puis il voit que tous ces hommes qui ont péché, il voyait aussi que certains, c'était la mort, le salaire du péché c'est la mort. Et en lisant ces textes-là, ça lui a fait prendre conscience de la réalité du péché dans sa vie. Ça lui a fait prendre conscience que, voilà, en lisant, voilà, tu ne feras pas ceci ou tu ne feras pas cela, que il le faisait. Et ne serait-ce qu'en lisant ces textes de la loi, ça nous révèle ce que nous sommes réellement, des pécheurs. Et lorsqu'on a fait ce constat, je suis un pécheur parce que je n'obéis pas au commandement de Dieu, je fais ce que Dieu me demande de ne pas faire, donc Dieu appelle cela péché et donc je suis condamnable. Qu'est-ce que je fais? Alors je fais la seule chose possible, qui est de me tourner vers celui qui seul peut me sauver, et qui a pris sur lui mon péché, Jésus-Christ. Et donc, c'est une erreur de vouloir chercher à vivre selon la loi. C'est pas ce que Dieu nous demande, mais il faut comprendre pourquoi Dieu a donné la loi. La loi, elle est bonne, elle est sainte. Mais la loi révèle en nous le péché. Et lorsqu'on a, on est conscient qu'on est pécheur devant Dieu, parce qu'on est confronté à la réalité de la parole de Dieu et à notre propre réalité, alors soit nous endurcissons notre cœur, ou soit nous nous humilions. Nous nous humilions devant Dieu et disons, oui Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que je suis perdu et que selon ta parole, ma destinée c'est l'enfer. Mais tu dis que si on se tourne, on croit en Jésus-Christ, on croit que c'est pour moi qu'il a donné sa vie, alors j'aurai la vie éternelle. Donc c'est ce que je veux faire. C'est ce que Dieu demande, tout simplement. L'autre chose aussi, c'est que il dit dans les versets 26 à 29 que la foi en Jésus-Christ donne une nouvelle position à ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Je relis ces versets, versets 26 à 29. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, c'est merveilleux de savoir que puisque nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, puisque nous avons reconnu que nous sommes pécheurs et que nous avons été délivrés, sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur nous dit que nous sommes fils de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le terme fils qui est utilisé parle d'une personne adulte qui n'a plus besoin justement de ce précepteur pour les guider. Alors que on est au départ enfant, et l'enfant, il y a celui qui est là, ce précepteur qui est là pour l'accompagner et l'aider à devenir adulte. Et lorsqu'il est adulte, voilà, il est considéré comme adulte, il n'a plus besoin du précepteur. Donc c'est cette image que l'apôtre Paul utilise. Il dit que la loi, elle était là comme un précepteur pour nous accompagner et nous faire grandir, nous faire grandir. Mais au moment où on se tourne vers Jésus-Christ, on passe de cette stature de fils de Dieu. Et donc on est adulte, quelqu'un qui est prêt à bénéficier et hériter les grâces du Seigneur. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que non seulement on est fils de Dieu, nous sommes, il est dit, un en Jésus-Christ. Nous formons un seul corps et c'est ça l'Église. Il n'y a plus, il dit, ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Alors qu'en Jésus-Christ, nous formons tous, nous sommes membres d'un même corps. Et Dieu ne fait plus de distinction. Nous avons le prix qui a été payé, c'est le même. Donc c'est Jésus-Christ qui est mort. Mais aussi nous avons le même héritage. Nous avons la vie éternelle. Et ce que Dieu dit, voilà, les hommes n'auront pas plus que les femmes ou plus que les enfants. Quel que soit ton âge, tu te tournes vers Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Jésus, eh bien, tu bénéficies des mêmes grâces que les autres. L'autre chose aussi, c'est que nous sommes héritiers, donc il est dit, de la promesse faite à Abraham. Et donc, et ça c'est très important. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, vous voyez, il s'agit pas seulement d'Israël, le peuple d'Israël, mais que tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu et sont eux les descendants d'Abraham, ceux qui avaient mis leur foi, comme Abraham a mis sa foi en Dieu. Alors ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ deviennent les descendants d'Abraham. Alors, j'aimerais juste poser la question, est-ce que vous, chers amis, est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ? Et si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que vous êtes encore sous la loi. Si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, vous êtes sous la loi. Et donc, si vous êtes sous la loi, donc vous êtes sous la condamnation. Parce que la loi, c'est ce qui conditionne aussi la vie. Donc, si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, vous vivez votre vie comme bon vous semble. Mais ce qui est là, qui sert d'étalon, c'est la loi de Dieu. Et dit que si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, alors vous êtes encore sous la condamnation. Et pour être libéré de cela, c'est seulement en donnant votre vie à Jésus-Christ. Donc réfléchissez bien à cela. Il ne faut pas être comme ce jeune homme riche qui a toujours cherché à pratiquer la loi, et qui, dans son cœur, savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Parce qu'il vient voir Jésus pour lui poser la question, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Pourtant, il pratiquait la loi. Et lorsque le Seigneur lui dit de vendre ce qu'il avait, il n'a pas voulu, et il est reparti tout triste. Donc, il ne faudrait pas que vous repartiez tout triste aussi, si vous voulez résister à l'appel de Dieu. Mais pour nous qui avons reçu Jésus dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur, on peut se poser la question, qu'en est-il de notre communion avec notre Seigneur? Sommes-nous sous la loi de Christ, n'étant plus sous ce précepteur, n'étant plus sous la loi, mais sommes-nous sous la loi de Christ? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21, il dit, avec ceux qui sont... L'apôtre Paul, il dit que je me fais tout à tous. Il dit, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. La loi de Christ, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La loi de Christ, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc le Seigneur ne nous a pas libérés de la loi pour que nous pensions que maintenant que nous pouvons faire n'importe quoi. On est quand même sous la loi de Christ. Et on peut se poser cette question, est-ce que je vis en conformité avec ce que Jésus-Christ me demande? Dans Galates chapitre 6, verset 2, il dit, portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alors, est-ce que Jésus-Christ, est-ce que c'est lui qui est la norme de ma vie, la norme de votre vie? Est-ce que vous soumettez à Jésus-Christ et vous cherchez à accomplir sa volonté. Dans Éphésiens chapitre 5, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. marcher à l'exemple de Jésus-Christ. Il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Donc, une fois qu'on se tourne vers Jésus-Christ, ce n'est que le début. C'est, le Seigneur attend de nous que nous marchions, que nous vivions comme lui, il nous demande de vivre, que nous cherchons à imiter notre Seigneur. Et pour cela, il nous a donné son esprit. Et l'apôtre Paul, par la suite, va expliquer en quoi la présence du Saint-Esprit en nous peut nous transformer pour justement marcher à l'exemple de Jésus-Christ. Et c'est là toute la vie chrétienne. Donc tout cela pour vous dire, frères et sœurs, chers amis, que lorsqu'on devient chrétien, on devient héritier des promesses que Dieu a faites à Abraham, que devenir chrétien, c'est un privilège, c'est une grâce, et qu'il ne faut pas négliger cela. Lorsqu'on devient chrétien, pas de nom, hein, je parle de chrétien selon la Bible, alors on devient enfant de Dieu, on a la vie éternelle, et cela doit nous motiver à vivre une vie qui soit conforme à Dieu. Et Jésus-Christ, il est venu, c'est parce que, justement, Dieu, il a donné ses lois, il a montré à l'homme que l'homme ne pouvait pas faire ce qui est bon par lui-même. Jésus-Christ, il est venu, et pour se créer, pour se faire un peuple qui lui appartienne. Et nous sommes ce peuple-là. Donc, il faut pas négliger cette réalité. Donc, ne soyons pas des chrétiens qui vivons sans espérance et sans Dieu. Soyons conscients de la grâce de Dieu envers nous, de ce que nous sommes héritiers de promesses de Dieu. Le monde est à vous. Donc, c'est merveilleux. Nous n'avons pas, pour revenir sur Asaf, c'est vrai que lorsqu'on regarde autour de nous, il n'y a pas à être jaloux des autres. C'est eux qui doivent nous jalouser. C'est eux qui doivent dire, voilà, j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comme elle, j'aimerais avoir l'espérance qu'il a. Et nous, notre vie, si nous laissons Christ vivre en nous, ça doit être cette pensée de dire, voilà, lui ou elle, il a quelque chose que je n'ai pas. Et donc, c'est pas de chercher à imiter les autres, à chercher à vivre comme eux. C'est eux qui doivent chercher à vivre comme nous. Et si ils ne cherchent pas à vivre comme nous, là, on peut se dire qu'il y a un problème. Donc, voilà, cette perle de grand prix, ne l'enterrons pas. N'oublions pas sa valeur. Mais croyons vraiment que le Seigneur nous a sauvés, que c'est une grâce d'appartenir au Seigneur, et c'est une grâce de servir le Seigneur, c'est une grâce de souffrir pour lui, parce qu'il nous a sauvés de la mort, de l'enfer, et il nous a donné une vraie espérance. Donc, nous soyons donc encouragés à avoir une vie qui honore notre Seigneur, pour que lorsqu'il paraîtra, nous ne soyons pas confus, mais que nous soyons dans la joie, parce que c'est notre attente, c'est qu'il revienne nous chercher. Donc à lui seul, toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. J'aimerais que nous terminions, si vous le voulez bien, avec un dernier chant, Miséricorde insondable, c'est dans le 259. L'apôtre Paul, dans son témoignage, il dit, voilà que Dieu a usé de, il a obtenu miséricorde. Malgré tout ce qu'il faisait, il a persécuté l'Église, il a obtenu miséricorde. Et chacun de nous, c'est ce que nous pouvons dire, oui, le Seigneur a usé de miséricorde envers nous, il nous a sauvés et nous voulons seulement lui dire merci. Et pour vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, le Seigneur aussi, veut vous faire grâce, donc à vous de l'accepter par la foi.